heure.
Bonjour,
RFI Talent du Rire. Abidjan, capitale du Rire. Mon ami, il n'y a pas mieux, hein.
Vous écoutez RFI, les 7 heures à Paris, 6 heures en temps universel.
Andréane Mellard.
Le journal tout de suite. Bonjour Julien Coquelrohem.
Bonjour Andréane. À la une, un pays qui tourne au ralenti sous la pression des États-Unis face à la pénurie de pétrole imposée par Donald Trump. Cuba a mis en place hier des mesures d'économie d'énergie drastiques. L'actualité ce matin, c'est aussi l'affaire Epstein et la colère d'élus au Congrès qui dénoncent la censure sans explication de plusieurs noms de personnalités liées aux criminels sexuels. Dans ce journal également, le secteur minier africain réuni au Cap en Afrique du Sud, l'ouverture hier du Mining Indaba, et puis un documentaire pour retracer la vie d'un prodige de la musique resté dans la légende malgré sa mort prématurée. On parle de Jeff Buckley à la fin de cette édition.
Ce sont des mesures très injustes.
Les propos de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum hier pour dénoncer la situation à Cuba, alors que la pression américaine pour priver le pays de pétrole commence à montrer ses effets concrets. Le mois dernier, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane contre les pays fournissant du carburant à la Havane. Résultat, pas un seul pétrolier n'est arrivé dans le pays depuis des semaines et hier, les autorités ont commencé à appliquer des mesures drastiques pour préserver les réserves. Carlota Morteo.
École fermée, opération chirurgicale reportée, télétravail généralisé. L'heure est aux économies d'énergie pour des Cubains déjà soumis depuis des années aux pénuries.
Les routes sont désertes, il n'y a plus de bus, les travailleurs ne peuvent plus se déplacer, il y a quelques voitures privées, mais vu le peu de carburant qu'il reste, les tarifs ont augmenté.
Omar Everleni Pérez, ancien directeur du Centre d'études de l'économie cubaine à l'Université de la Havane.
Les produits cultivés dans les champs n'arrivent pas en ville puisqu'il n'y a plus de carburant, donc il n'y a presque plus rien à manger dans les magasins d'État. Les poubelles ne sont pas ramassées, on manque déjà d'électricité, de médicaments. L'ambiance est triste, les gens ont des visages désespérés, ils ne savent plus quoi faire.
Selon lui, cette crise est pire que la période spéciale des années 90, après la chute de l'URSS, alors principal fournisseur de pétrole de Cuba.
À l'époque, on était habitué à ne pas avoir de dollars, on n'avait pas de tourisme international ni d'investissement étranger. Donc les mesures avaient permis à l'économie de repartir assez vite. Là, on n'a rien et en plus, le tourisme s'effondre de jour en jour.
Les quelques milliers de touristes encore présents sur l'île ont été regroupés dans un seul hôtel, asphyxiés. Cuba assure maintenir des réserves de pétrole pour ses activités de défense.
Et Carlota Morteo, et à Moscou, le Kremlin dénonce les méthodes asphyxiantes de Washington.
Aux États-Unis, Julien, c'est toujours l'affaire Epstein qui fait la une.
Alors qu'hier, Ghislaine Maxwell était entendue par une commission du Congrès, l'ancienne compagne et principale complice du milliardaire et criminel sexuel a décidé de garder le silence, condamnée déjà à 20 ans de prison dans cette affaire. Elle se dit prête à répondre aux questions en échange d'une grâce présidentielle.
Et dans ce contexte, les parlementaires ont aussi continuer d'éplucher les millions de pages de ce dossier.
Plusieurs élus ont pu consulter hier les versions non censurées des documents publiés par le ministère de la Justice. Et deux d'entre eux ont dénoncé dans la foulée des caviardages injustifiés. Les noms de 6 personnalités, certaines haut placées, auraient été occultés sans explication dans les documents rendus publics. C'est ce que dénonce notamment le démocrate Jamie Raskin.
Le ministère de la Justice essaie de se couvrir depuis des mois en tentant de mettre tout ça sous le tapis. Plus je me penche sur ce dossier, plus je crois que les survivantes, les victimes, sont celles qui vont ouvrir la voie. Nous avons besoin de les auditionner, de les entendre raconter leur expérience afin qu'elles puissent expliquer ce qui s'est passé et dessiner les contours de cette affaire. Nous devons enquêter sur l'argent, sur l'organisation, la hiérarchie. Vous ne pouvez pas diriger un réseau international d'exploitation sexuelle sur mineurs avec juste 2 figures criminelles, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Nous devons découvrir quels complices sont impliqués et je crois vraiment qu'écouter les victimes nous permettra de naviguer à travers ce cauchemar.
Et demain, c'est la ministre de la Justice américaine, Pam Bondi, qui sera auditionnée par le Congrès.
Dans l'actualité également ce matin, Israël sous le feu des critiques.
Après le feu vert dimanche du Conseil de sécurité à une série de mesures modifiées simplifiant la gouvernance de la Cisjordanie occupée, pour y étendre le contrôle israélien et faciliter la colonisation illégale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce une décision qui compromet la perspective d'une solution à deux États. L'Union européenne a condamné hier un nouveau pas dans la mauvaise direction, rappelant que l'annexion est illégale en droit international.
Israël, où les Arabes israéliens s'organisent contre le crime organisé.
Ils représentent 20% de la population du pays, ces Palestiniens restés sur le territoire de l'État hébreu après sa création en 1948. En 2025, 252 homicides ont été recensés dans leur communauté, plus de 30 rien que pour le début de cette année, des chiffres en hausse de plus de 20% par rapport aux années précédentes. Dans le nord du pays, ces citoyens arabes appellent donc à manifester aujourd'hui pour dénoncer l'impunité. Ils accusent le gouvernement de les négliger et de laisser la violence se propager. Rencontre ce matin avec l'homme à l'origine de ce sursaut, Ali Zoubeïda, 72 ans. Reportage à Sarnine de Frédéric Misselin.
Beaucoup de clients dans le supermarché d'Ali Zoubeïda à Sarnine. Pourtant, il y a un mois, les vitrines de son magasin ont été ciblées par des rafales d'armes à feu. L'entrepreneur de 72 ans raconte, les appels de menaces visent directement son fils.
Il a dit, nous savons où tu vas à Haïfa, au marché aux légumes. Tu pars à 3h30 du matin, tu rentres à 11h le soir. Si nous devons te tuer, nous savons tout ça. Alors là, j'ai dit, assez, ça suffit.
Ali Zoubeïda refuse alors de céder au chantage. Il ferme son magasin et explique publiquement pourquoi. Des dizaines de milliers de personnes le soutiennent et manifestent à Sarnine fin janvier pour dire stop à la violence des gangs. Mohamed Darawesh, expert des relations entre juifs et arabes en Israël, dénonce l'inaction de la police.
We're talking about seven gangs.
Nous parlons de 7 gangs répartis dans tout le pays. Le chef de gang s'entoure de 4 ou 5 personnes, les plus importantes issues de sa propre famille. Ensuite, les hommes de main sont recrutés dans des milieux défavorisés, ou alors ce sont d'anciens collaborateurs de l'armée israélienne, originaires de Cisjordanie et de Gaza. Ce sont des traîtres importés en Israël par l'État d'Israël, et en échange, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent ici.
Selon les experts, le taux d'homicide dans les villes arabes israéliennes était déjà en hausse depuis quelques années, mais avec l'arrivée du ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir au gouvernement pour superviser l'action de la police, le problème s'est aggravé. Frédéric Misselin, de retour de Sarnine, RFI.
Il est midi 7 à Dhaka, 18 mois après la chute de la première ministre Sheikh Hasina. Le Bangladesh se prépare à reprendre son destin en main.
Le pays vote dans 2 jours, élections législatives et référendum constitutionnel. Et pour la première fois depuis des décennies, les électeurs verront de nouvelles têtes sur leur bulletin de vote. La génération Z, à l'origine du soulèvement de 2024, s'invite aujourd'hui dans la course électorale. À Dhaka, notre envoyé spécial Abdoulaye Rally.
À la tribune, Akande Ichilema porte un message fort, riche en ressources stratégiques dont le monde a besoin.
Abdoulaye Rally à Dhaka, qu'on va peut-être retrouver dans un instant. Petite erreur d'aiguillage technique au Bangladesh, donc, où l'on vote et où la génération Z s'implique.
Dans le quartier d'Outara à Dhaka, Aïcha Megla tient son dernier meeting. Elle vient du mouvement étudiant de la génération Z qui a contribué à faire tomber Sheikh Hasina en août 2024. Comme elle, des centaines de jeunes se sont engagés dans la campagne électorale. Mais son camarade Ariful Islam Adib, issu du même mouvement, a lui choisi de se présenter candidat.
La génération Z et les leaders étudiants sont pleinement engagés dans notre campagne. Ils sont particulièrement prêts pour le changement, afin de bâtir un nouveau Bangladesh.
Son parti s'est allié au mouvement religieux la Jamaat Islami, un calcul stratégique qui crispe une partie de la génération Z bangladaise. Adiba, qui a participé au soulèvement de 2024, craint un basculement rigoriste.
En tant que femme, l'inquiétude est là. J'ai peur que l'espace public se referme, que travailler ou étudier devienne un combat. C'est ma principale raison.
Pour la première fois, la jeunesse bangladaise bouscule les chiffres. 28% des candidats ont moins de 44 ans, un renouveau porté par les visages du soulèvement de 2024. Abdoulaye Rally, Dhaka, RFI.
C'est le grand rendez-vous du secteur minier africain.
Le mining Indaba s'est ouvert hier en Afrique du Sud. Le grand forum d'investissement qui a commencé par l'appel à l'union lancé par le président zambien Hakainde Hichilema. Un discours pour exhorter tout le continent à s'unir pour que la richesse de ses sous-sols profite vraiment à ses états, Valentin Hugues.
À la tribune, Hakainde Hichilema porte un message fort, riche en ressources stratégiques dont le monde a besoin. L'Afrique doit imposer sa propre stratégie.
Nos ressources garantissent la prospérité uniquement si elles sont exploitées à travers des partenariats stratégiques. C'est ce que nous devons garder en tête lors de ce mining Indaba. Nous devons agir et prendre les rênes nous-mêmes, mieux nous organiser pour nous assurer d'être des partenaires dignes de confiance au sein de la communauté internationale. L'Afrique ne doit plus, par exemple, attendre que le FMI établisse un programme pour elle. C'est à nous de concevoir nos propres programmes et demander au FMI de les soutenir.
Le chef de l'État, qui souhaite attirer plus d'investissements dans le secteur minier zambien, appelle au renforcement de l'intégration régionale et continentale.
On doit penser à notre commerce national, mais aussi discuter avec la RDC, avec l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria ou le Ghana. Que pouvons-nous faire ensemble? Cette question doit absolument être au cœur de nos discussions ici pour construire ensemble nos visions, nos stratégies et nos programmes communs.
Un appel à l'union partagé par le ministre sud-africain des ressources minérales et pétrolières, Guédé Mantaché, incite le continent à parler aux investisseurs d'une seule et même voix et dénonce des tensions géopolitiques motivées par la concurrence de certaines économies développées qui cherchent à mieux contrôler les ressources naturelles des pays en développement. Valentin Hugues, Le Cap, RFI.
Et dans ce contexte, un nouveau drame minier en République démocratique du Congo. Ce week-end, la mort de 12 mineurs dans l'effondrement d'une mine artisanale de cuivre à Toulizembe, près de Kolwezi, dans le Katanga. La société civile appelle à renforcer la sécurité alors qu'on recense plus de 20 victimes en 2 ans sur ce site.
Et puis, Julien, il n'a sorti qu'un seul album de son vivant, mais les amoureux de musique n'ont jamais oublié son nom.
Passé comme une comète dans notre ciel, son éclat n'a jamais faibli. Le chanteur américain Jeff Buckley, érigé au statut d'idole dès ses débuts, avant sa mort tragique à l'âge de 30 ans en 1997. Sa musique continue de toucher les mélomanes de tous les âges et un documentaire événement sur lui sort demain en France, Sophie Torlotin.
Amy Berg a mis plus de 10 ans à persuader la mère de Jeff Buckley de lui confier ses archives, photos et vidéos. Grâce à elle, mais aussi à la contribution des amoureuses de ce génie de la musique et l'interview des musiciens Ben Harper ou de ses idoles de Led Zeppelin, les jeunes générations découvrent la vie torturée de cet autodidacte entré en musique comme en religion. Amy Berg.
During the 90s, it was very much a fight against establishment and corporations.
Dans les années 90, il y avait tout un mouvement qui luttait contre les ordres établis, les multinationales. Il y avait la guerre du Golfe aussi. Et Jeff Buckley a débarqué dans ce contexte et lui, il chantait l'amour. Et la génération Z redécouvre ses chansons et j'en suis heureuse car j'adore sa musique.
His album from the moment I heard it.
Grand musicien et mélomane, Jeff Buckley s'inspire aussi bien de Bob Dylan que du pakistanais Nusrat Fateh Ali Khan ou de la française Edith Piaf. Capable d'évoluer sur 4 octaves, ce prodige reste aussi célèbre pour une autre de ses reprises, celle du Alléluia de Leonard Cohen.
Sophie Torlotin, et tout est dans le titre de ce documentaire It's Never Over, Jeff Buckley. Ce n'est jamais fini, Andréane.
Non, jamais fini, car on en reparle tout à l'heure dans notre choix musical. Juste avant 9h, merci Julien Coquel-Rohem, 7h13 à Paris, dans 5 minutes. Nos invités, les journalistes russes indépendants Anna Artemeva et Ivan Zilin. Rendez-vous 7h20. D'abord, Antoine Grenier, et du foot avec le début de la 26e journée de Premier League en Angleterre.
Et l'intense bataille pour le podium. Manchester United, 4e à 3 points du 3e, affronte West Ham, 18e et relégable, pendant que Chelsea, 5e à une longueur des Red Devils, reçoit Leeds. Des Blues qui arrivent en confiance après 4 victoires de rang et qui peuvent compter sur le retour en forme de leur star, Cole Palmer, auteur d'un triplé le week-end dernier. Mais la fatigue liée à une année 2025 très dense et un titre de champion du monde des clubs pèse sur le vestiaire, estime le coach londonien Liam Rosenior.
Yeah, it's difficult. We've rotated a lot. C'est difficile, on a beaucoup fait tourner, on est obligé de faire ces rotations encore plus à ce niveau-là de la saison. Je l'ai déjà mentionné, mais il faut garder à l'esprit le calendrier très rallongé des joueurs. Ils ont joué tout l'été et n'ont pas eu de préparation d'avant-saison. Ils ont été incroyables jusqu'ici, mais je dois essayer d'apporter de la fraîcheur dans l'équipe, que ce soit sur l'aspect mental ou physique, et surtout être prêt tactiquement pour mettre ces joueurs-là dans les meilleures conditions. Et depuis que je suis là, ils sont tous exemplaires.
Chelsea Leeds, 19h30 temps universel, en même temps qu'Everton Bournemouth et Tottenham Newcastle.
En Italie, Antoine, l'Atalanta et l'AS Rome restent en course pour l'Europe.
24e journée de Serie A, les Bergamasques s'imposent 2-1 sur Cremonese et reviennent à 2 points de la 6e place de Côme. L'AS Rome, elle, prend un peu d'air avec un succès 2-0 sur Cagliari et une 5e place consolidée avec 5 points d'avance sur le 5e.
On termine avec les Jeux Olympiques d'hiver. Lindsay Vonn s'exprime après sa chute et sa blessure dans l'épreuve de descente. Et
l'Américaine de 41 ans qui rêvait d'un second titre olympique, mais a lourdement chuté dimanche après seulement 13 secondes de course. Déjà victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 31 janvier, Vonn a annoncé souffrir maintenant d'une fracture complexe du tibia gauche qui nécessitera plusieurs opérations.
Les Jeux, eux, continuent avec une autre légende américaine sous le feu des projecteurs.
Michaela Schifrin, 108 victoires en Coupe du Monde, un record, s'aligne sur le combiné par équipe. L'octuple championne du monde et double championne olympique sera associée à Bridget Johnson, sacrée championne du monde de descente dimanche, et un mardi championne olympique de descente dimanche, un mardi qui marque également le retour du biathlon avec le 20 km messieurs prévu à Anterselva. En favori, Éric Perrault, actuel leader du classement général de la Coupe du Monde, et derrière, à l'affût, le champion olympique en titre, Quentin Fillon-Maillet.
Moi j'arrive avec de la décontraction ici, le succès olympique je l'ai eu, je l'ai plus que eu à Pékin, donc j'arrive ici avec une décontraction, je me dis pas, voilà, j'ai une obligation de résultat pour garnir mon palmarès. C'est quelque chose, c'est peut-être ma dernière chance, peut-être mes dernières Jeux Olympiques. Donc voilà, je suis plutôt serein et en détente par rapport à tout ça. Et puis voilà, je pense que cette démarche m'apportera des succès.
Quentin Fillon-Maillet avec Christophe Dirimian
et Antoine Grenier. Allez, tout de suite, c'est notre rendez-vous quotidien avec l'actualité économique. Avec vous, Stéphane Genest, bonjour.
Bonjour, Andréane.
Vous nous parlez d'un événement qui va se tenir ce midi en France, événement symbolique dans la stratégie industrielle du pays. La première pierre d'une nouvelle gigafactory de batteries électriques va être posée à Dunkerque, dans le nord de la France. Un projet porté par le groupe taïwanais Prologium. C'est... Pourquoi c'est important, Stéphane ? Eh bien, parce que l'ambition de la France est claire. Le pays veut devenir un leader européen des batteries électriques.
Oui, avec plusieurs objectifs, en produire jusqu'à 2 millions de batteries par an d'ici 2030, créer plus de 13 000 emplois rien que sur ces sites et plus largement bâtir une vallée de la batterie dans le nord de la France. Et le sujet est on ne peut plus important pour le pays car l'enjeu c'est de réduire la dépendance à la Chine qui contrôle aujourd'hui près de 70% de la production mondiale de batteries, puisque sans batterie, Andréane, pas de voitures électriques et sans voitures électriques, pas de transition énergétique crédible.
Et donc aujourd'hui, le projet français, il en est où ?
Alors le bilan, il est pour le moment contrasté. Sur le papier, la France compte 5 projets majeurs de gigafactories. Dans les faits, seulement 2 sont aujourd'hui en activité. La montée en puissance est en effet plus lente que prévu. D'abord, parce que fabriquer des batteries, c'est très compliqué. Il faut maîtriser le processus et les Européens commencent à peine à avoir le savoir-faire. Ensuite, parce qu'un projet de ce type, c'est très coûteux. Entre 2 et 5 milliards d'euros d'investissement par site. Et puis surtout, le poids de la technologie des batteries électriques.
Et c'est-à-dire donc ?
Eh bien, parce que ces équipements évoluent très rapidement. Une batterie développée il y a 3 ans est déjà obsolète par rapport à celle d'aujourd'hui. On parlait du projet Prologium dans le Nord, justement. Eh bien, si la première pierre n'est posée qu'aujourd'hui, 3 ans après l'annonce de la construction du site, c'est parce que le groupe a décidé de changer de technologie en cours de route pour passer à une nouvelle génération de batteries bien plus performante. C'est donc à Paris. Très risqué, tout comme pour les pouvoirs publics d'ailleurs.
Et oui, car pour faire venir ces grands groupes, l'État français mobilise de l'argent public.
Exactement, selon les études de la Banque européenne d'investissement et de France Stratégie, 1 euro public investi dans l'industrie verte génère entre 2,50 euros et 4 euros de valeur ajoutée à moyen terme. Et pour le moment, c'est vrai, ça n'a pas rapporté beaucoup, mais les retombées à venir sont concrètes. On parle là de création d'emplois directs et indirects, de fiscalité et de sous-traitance. Bref, au-delà de préserver l'industrie l'industrie automobile tricolore, de sécuriser l'approvisionnement européen en batterie et de maintenir la souveraineté industrielle française. Ce type de projet relance aussi et surtout l'activité économique de régions qui subissent de plein fouet la désindustrialisation.
Stéphane Geneste pour aujourd'hui l'économie sur RFI. Merci beaucoup Stéphane. Il est 7h19 à Paris. C'est une parole très rare que l'on vous propose d'entendre à présent sur RFI, celle de deux journalistes russes indépendants, Anna Artemeva, et Ivan Zilin travaillent pour le média Novaya Gazeta. Ensemble, ils ont tourné le documentaire « Les Revenants » qui rassemble les témoignages de 18 soldats russes de retour du front ukrainien. De passage à Paris, ils ont répondu aux questions d'Arnaud Pontus, un entretien réalisé avec l'aide de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales.
Bonjour Anna Artemeva.
Bonjour.
Et bonjour Ivan Zilin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RFI à l'occasion de votre passage à Paris. Dans quelques jours, le 24 février, cela va faire 4 ans que les autorités russes ont lancé en Ukraine ce qu'elles appellent une opération militaire spéciale. Anna, comment est-ce que vous vivez ce conflit? Comment est-ce que vous exercez votre travail?
C'est vrai que nous continuons à travailler en Russie, à Moscou, et nous continuons à documenter ce qui se passe dans le pays qui mène la guerre, qui est notre pays. Nous sommes confrontés à un grand nombre de problèmes, il y a beaucoup de risques auxquels sont confrontés tous les journalistes aujourd'hui en Russie et à cause desquels environ 500 journalistes ont été obligés de quitter la Russie et sont en exil aujourd'hui, mais ils continuent à travailler. Et donc nous restons en Russie et nous continuons à travailler dans les conditions de la censure militaire. Nous, les journalistes, devons diffuser seulement les informations officielles. Évidemment, Novaya Gazeta, c'est un média indépendant et refuse de le faire. Et donc, nous ne parlons pratiquement pas des actions militaires, des combats, de ce qui se passe sur le front, mais nous parlons de ce qui se passe avec la société dans les conditions de ce grand conflit militaire.
Alors, Novaya Gazeta, je le précise pour nos auditeurs, média russe indépendant et qui s'est scindé en deux en quelque sorte. Il y a les journalistes qui sont restés en Russie et ceux qui sont partis en Lettonie. Comment s'est fait ce choix? Comment vous vous êtes organisé?
C'était un choix naturel. Au printemps 2022, beaucoup de Russes qui ne soutiennent pas ce qui se passe et ont la position anti-guerre, ont été obligés de prendre une décision. Est-ce qu'ils vont rester en Russie ou partir? Et dans notre équipe, une partie de la rédaction un peu plus jeune a décidé de partir en Lettonie en ce moment-là. Et une plus petite partie de la rédaction est restée à Moscou avec Dmitri Muratov. Et comme l'a dit Dmitri Muratov, l'a bien formulé, c'était un mauvais choix, soit la patrie sans la liberté, soit la liberté sans la patrie. Mais il n'y a pas eu de conflit entre nous, nous sommes toujours des amis et nous comprenons très bien que ces deux choix sont très difficiles et chacun paye son prix pour ce choix.
Est-ce qu'au quotidien vous subissez des pressions?
Peut-être nous ne le remarquons plus parce que nous continuons notre travail. Nous sommes journalistes, documentalistes, nous parlons aux gens et nous faisons notre travail. Nous avons déjà appris à contourner et à utiliser cette censure militaire, d'utiliser d'autres mots, d'autres termes au lieu du mot guerre, utiliser des allusions, d'autres, ne pas toucher certains sujets. Mais c'est une grande humiliation pour nous. C'est un sentiment de solitude. Mais nous travaillons. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Par exemple, notre site en Russie est bloqué. C'est seulement avec le VPN que nous pouvons l'ouvrir. Nous n'avons plus d'édition version papier. Seulement une fois par mois, notre journal paraît. Avant, c'était 2 fois par mois. Certains journalistes sont reconnus comme agents de l'étranger. Donc, il y a vraiment de la pression quotidienne.
Anna Artemeva, vous dites que vous vous retrouvez dans une position humiliante dans vos conditions de travail. permet de noter que vous avez surtout beaucoup de courage de continuer.
Six journalistes à Nouvelle Gazette ont été tués pour leur métier. Et chaque fois que nous devons faire l'autocensure, ne pas toucher certains sujets ou couper certains morceaux de nos films, de nos articles, couper certains mots, on se demande, est-ce que Anna Politkovskaya aurait fait la même chose ?
Anna Artemeva, Ivan Zeline, vous avez réalisé ensemble le documentaire Les Revenants. Vous donnez la parole à 18 soldats russes rentrés d'Ukraine. Ils vous racontent leurs douleurs, leurs doutes. Est-ce que ce sont des voix qui peuvent se faire entendre en Russie par d'autres médias que les vôtres ? Ivan Zeline.
Un Russe lambda est entouré par les médias de l'État qui ont une autre façon de raconter la vie des soldats. Ils en parlent comme des héros qui protègent leur terre.
Et
ils disent que même s'il y a des difficultés, même s'ils ont perdu un bras ou une jambe, même si maintenant ils sont des handicapés, ils surmontent les difficultés. Donc, on peut entendre les voix honnêtes dans très peu de médias. Et si vous êtes un Russe lambda qui n'a pas d'accès à des médias bloqués, qui ne sait pas comment accéder à ces médias, vous ne pourrez pas accéder à ces voix. Vous ne pourrez pas les entendre. Vous ne pourrez pas savoir leur peine et leur douleur.
Oui, les soldats qui reviennent du front, ils sont présentés dans les médias officiels comme des héros, des patriotes. Et ce n'est pas ce que l'on voit dans votre film, pas exclusivement en tout cas. Il n'y a pas grand-chose d'agréable là-dedans, dans ce conflit, dit l'un de témoins que vous avez interrogé. 90% des gens ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient en arrivant sur le front.
La majorité d'entre eux ne comprennent pas très bien pourquoi tout ça a lieu, pourquoi tout ça se passe. Mais si on commence une longue conversation profonde, ils disent directement, en Ukraine, il y a aussi des gens comme nous, ils souffrent comme nous. Et maintenant, on se retrouve ici sur le front à tirer l'un sur l'autre et à se tuer mutuellement. Pour la plupart, ils sont en position de conflit, en quelque sorte, avec le pouvoir. Par exemple, l'un de nos intervenants a dit qu'il est très énervé quand il voit la propagande à la télé. Donc lui, il voit d'un œil très négatif cette propagande.
Dans votre film, on a le récit de ces revenants, l'un des soldats qui raconte comment on peut dormir sur un cadavre. Certains parlent du fait d'être soldat comme si c'était un travail comme un autre. Et tous, après leur retour, s'interrogent beaucoup sur leur état psychologique, sur le fait qu'ils ne sont plus tout à fait normaux.
Oui. Ils voient qu'ils ont des problèmes psychologiques. Ils voient que d'un coup, ils deviennent agressifs. Ils se mettent en colère, ils peuvent aller se battre avec quelqu'un, ou tout d'un coup, ils ont juste envie de se cacher dans une petite maisonnette, se cacher comme quand on était enfant.
Alors j'invite évidemment nos auditeurs à aller, hein, s'ils le peuvent, sur YouTube pour voir votre film avec tous ces témoignages extrêmement forts. Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux, des 18 soldats qui vous ont parlé ?
Après la sortie du film, c'était les premières personnes à qui nous avons envoyé le lien pour qu'ils puissent regarder ce film. Et c'est étonnant parce que quelques personnes nous ont répondu, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas ouvrir YouTube? Pourquoi ne pouvons pas regarder? Est-ce que vous pouvez le télécharger sur une plateforme russe? Chez nous, en Russie, on ne peut plus regarder YouTube sans VPN. Mais la majorité nous ont remercié pour ce film. Il y en a qui n'ont pas répondu. Un soldat est revenu sur le front car presque tous, ils ils disent qu'ils ont cette dépendance de l'adrénaline qui peut être comparée à la dépendance des drogues. Ces émotions très fortes que les gens éprouvent à la guerre, et donc ils ont cette envie de revenir sur le front. Et donc il y en a un parmi eux qui est revenu sur le front. Et voilà, c'est ça leur vie.
Pour finir, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il vous arrive à l'un et à l'autre de penser à ce que vous ferez après, une fois que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine sera terminé?
Moi, personnellement, j'essaie de ne pas y penser. Nous nous projetons à court terme, parce que c'est en Russie, penser à son avenir, c'est très difficile.
Ivan?
J'ai juste une peur que ce conflit ne sera jamais fini. Qu'elle ne sera jamais finie et que ça ne sera plus possible de le regarder. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient sacrifiées leurs résultats professionnels pour voir la guerre se terminer.
Merci infiniment à tous les deux. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Merci.
Avec Arnaud Pontus, les journalistes Anna Artemeva et Ivan Zilin, auteurs du film documentaire Les Revenants, qui donne la parole à 18 soldats russes de retour du front ukrainien. Pour le regarder, il suffit de taper The Returned dans la